Nous lisons dans Esdras chapitre 9 jusqu'au verset 6 du chapitre 10. Et quand ces choses furent terminées, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël et les sacrificateurs et les lévites ne se sont pas séparés des peuples des pays quant à leurs abominations, savoir celles des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la semence sainte avec les peuples des pays. Et la main des chefs et des gouverneurs a été la première dans ce péché. Et quand j'attendis cela, je déchirai mon manteau et ma robe, et j'arrachai les cheveux de ma tête et ma barbe, et je m'assis désolé. Et vers moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël à cause du péché de ceux qui avaient été transportés. Et je restai assis, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Et lors de l'offrande du soir, je me levai de mon humiliation, et mon manteau et ma robe déchirés, je m'agenouillai, et j'étendis mes mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis: mon Dieu, je suis confus et j'ai honte de lever ma main vers toi, ô mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et notre culpe a grandi jusqu'aux cieux. Dès les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons été grandement coupables. Et à cause de nos iniquités, nous, nos rois, nos sacrificateurs, nous avons été livrés à la main des rois des pays, à l'épée, à la captivité et au pillage et à la confusion de face, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, pour un moment, vous est arrivée une faveur de la part de l'Éternel notre Dieu pour nous laisser des réchappés et pour nous donner un clou dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes serviteurs. Mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a étendu sa bonté sur nous devant les rois de Perse, afin de nous redonner de la vie pour élever la maison de notre Dieu et pour restaurer ses ruines et pour nous donner des murs à Juda et à Jérusalem. Et maintenant, ô notre Dieu, que dirons-nous après cela? Car nous avons abandonné tes commandements que tu as commandés par tes serviteurs les prophètes, en disant: le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays rendu impur par l'impureté des peuples des pays, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre par leurs souillures. Et maintenant, ne donnez pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, et ne cherchez pas leur paix ou leur bien à jamais, afin que vous soyez forts, et que vous mangiez les biens du pays, et que vous les laissiez en possession à vos fils à toujours. Et après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises œuvres, et à cause de notre grand péché, mais toi, notre Dieu, tu nous as moins punis que ne méritaient nos iniquités. Et tu nous as donné une délivrance comme celle-ci. Est-ce que nous retournerions à enfreindre tes commandements et à nous allier par mariage avec les peuples qui font ces abominations? Ne serais-tu pas courroucé contre nous jusqu'à nous consumer, en sorte qu'il n'y aurait ni reste ni réchappé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes un reste de réchappés, comme il paraît aujourd'hui. Nous voici devant toi dans notre culpabilité, car à cause de cela, on ne peut se tenir devant toi. Et comme Esdras priait et faisait sa confession, pleurant et se prosternant devant la maison de Dieu, il se rassembla vers lui d'Israël une très grande congrégation d'hommes et de femmes et d'enfants, car le peuple pleurait beaucoup. Et Shekania, fils de Jékiel, des fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles à notre Dieu, et nous avons pris des femmes étrangères d'entre les peuples du pays. Mais maintenant, il y a espérance pour Israël à cet égard. Et maintenant, faisons alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes les femmes et ceux qui sont nés d'elles, selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, et qu'il soit fait selon la loi. Lève-toi, car la chose repose sur toi, et nous serons avec toi. Sois fort et agis. » Esdras se leva, il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des lévites, de tout Israël, d'agir selon cette parole, et ils jurèrent. Esdras se leva de devant la maison de Dieu, et alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib, et il entra là. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, car il menait deuil sur le péché de ceux qui avaient été transportés.
Nous avons donc là l'histoire d'un autre homme de Dieu qui s'est aussi humilié pour l'état du peuple, qui a fait confession et qui a imploré l'Éternel à cause de l'état du peuple. Ce n'était plus dans les mêmes circonstances, puisque nous savons que ce peuple-là, duquel nous lisons ces choses, était remonté de Babylone pour reconstruire la maison de Dieu, selon l'ordre de Cyrus, roi de Perse. Et on l'a déjà dit ce matin, ils n'étaient pas bien nombreux à être remontés. Toutefois, ils avaient montré leur fidélité, ils avaient rétabli l'autel sur son emplacement. Ils avaient célébré les fêtes qu'ils devaient célébrer selon la loi de Moïse. Ils avaient reconstruit les fondements du temple, de la maison de Dieu. Et puis, l'ennemi, bien sûr, ne voulant pas se laisser faire, ils avaient baissé les bras. Mais l'Éternel avait toujours les yeux sur son peuple et sur ce petit reste qui représentait son peuple. Aussi, il envoie les prophètes Agée et Zacharie qui vont réveiller l'ardeur du peuple et finalement, la maison sera construite. Et puis, les choses ont été un temps. Mais, d'après ce que nous voyons, lorsqu'Esdras, le scribe qui avait mis à son cœur, dans son cœur, d'enseigner la loi, non seulement de l'enseigner, mais d'étudier et de faire et d'enseigner la loi de l'Éternel, lorsqu'il monte à Jérusalem, nous voyons qu'il trouve un état bien triste dans le peuple. Il y avait donc eu une décadence. Depuis le temps où ce peuple était remonté pour construire la maison de Dieu, ce qu'ils avaient fait avec ardeur jusqu'à un certain point, même lorsqu'ils avaient baissé les bras et pendant une quinzaine d'années n'avaient plus rien fait, ils avaient été réveillés par les prophètes et ils avaient repris le travail, mais il y a eu néanmoins un déclin, et lorsque Esdras arrive, eh bien le déclin est très prononcé. C'est-à-dire que l'ordre de Cyrus était en l'an 536, si on s'en réfère aux notes de notre Bible. La dédicace du temple était en 515, Esdras arrive en 468. Il y a donc 68 ans, lorsqu'Esdras arrive, 68 ans que les premiers, avec Zorobabel, sont remontés à Jérusalem. Et il y a 47 ans que la maison de Dieu, la dédicace du temple avait été faite. Ça fait 2-3 générations, peut-être. peut-être même pas tout à fait 3 générations. Et il a suffi de ce temps-là pour que le déclin se manifeste à l'évidence. Et c'est ce que nous lisons dans ce chapitre. Esdras et ceux qui étaient venus avec lui de Babylone avaient donc apporté tout ce qu'il fallait apporter. Ils avaient, en arrivant, offert les sacrifices qu'il était convenable d'offrir pour tout Israël, 12 taureaux, 12 boucs. Et puis quand ces choses furent terminées, les chefs s'approchèrent de moi, disant, « Le peuple d'Israël et les sacrificateurs et les Lévites ne sont pas séparés des peuples des pays quant à leur abomination, savoir celle des Cananéens et des Hétiens. » Les peuples d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ce sont ceux qui étaient déjà là lorsqu'Esdras et les siens arrivent. Et bon, ils étaient tombés dans les péchés des pays environnants, parce qu'ils s'étaient mélangés par mariage avec ces nations environnantes. Et il y a cette précision au verset 2, « Et la main des chefs et des gouverneurs a été la première dans ce péché. » C'est ce qui conduit Esdras alors à manifester son humiliation. Quand j'entendis cela, je déchirai mon manteau et ma robe, et je m'arrachai les cheveux de la tête et ma barbe, et je m'assis désolé. Remontant de Babylone, il pouvait s'attendre peut-être à trouver un peuple zélé pour l'Éternel, et voilà ce qu'il découvre. Il découvre le mélange.
Sentiment d'humiliation ne naissent pas spontanément, mais ils sont le fruit d'une prise de conscience d'un état existant. Nous le voyons tout au long de la parole, que ce soit dans les livres des rois, que ce soit même dans le livre de Josué, et déjà dans l'affaire d'Acan et autres, il y a cette prise de conscience d'un état qui n'est pas selon Dieu et qui amène dans le cœur le sentiment profond d'avoir été désobéissant, de ne pas avoir suivi la pensée de Dieu dans telle ou telle circonstance, dans tel chemin ou dans tel témoignage. C'est ce que nous voyons ici pour ce qui concerne Esdras. Prend conscience de l'état du peuple, il le fait sien et il le porte devant l'Éternel.
C'était un homme zélé pour son Dieu, comme on le voit au chapitre précédent, au chapitre 7 plutôt, au verset 9. Au 5e mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. Car cet Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Il avait recherché cela étant encore à Babylone. Mais Dieu avait besoin d'un serviteur pour annoncer la parole à son peuple, sans doute pour redresser les choses mauvaises dans son peuple. Alors cet Esdras était disposé, il était disponible même aussi, pour venir faire le service de la part de Dieu dans ce peuple qui commençait à s'écarter sérieusement.
On a souvent remarqué que ce ne sont pas ceux qui, malheureusement, se sont le plus enfoncés dans le péché qui sont en mesure de s'en rendre compte au premier abord. La parole de Dieu nous parle d'ailleurs de la séduction du péché. Je vous rappelle une phrase, petite remarque d'un chrétien du siècle dernier qui disait que notre conscience est comme un chien fidèle, mais à force de voir passer les mêmes choses, elle n'aboie plus. Et il faut dire que c'était un péché déjà, on peut dire, ancien, qui avait été à l'origine déjà de la déportation et qui n'avait jamais été vraiment jugé devant le Seigneur. Et voilà maintenant que la parole de Dieu ici le dit avec façon très claire, là, que la main même des chefs avait été la première, n'est-ce pas? Ils ont mêlé la semence sainte, verset 2, avec les peuples du pays, et la main des chefs et des gouverneurs a été la première dans ce péché. Si on veut parler concernant la responsabilité, nous, pour rappeler un passage que nous avons dans le Lévitique, et au chapitre 4, quand il est question du péché, et encore là, il est question du péché par erreur, on voit que le péché d'un chef, verset 22, était quelque chose de particulièrement sérieux. Si un chef a péché et fait par erreur à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel son Dieu, ce qui ne doit pas se faire, et s'est rendu coupable, si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, c'est quelque chose d'assez impressionnant d'ailleurs qu'il soit parlé ainsi d'un chef, eh bien on voit qu'il a perdu certainement, et cela nous arrive, de perdre le discernement encore et toujours à cause de cette séduction du péché. On le commet peut-être sans même s'en rendre compte. On a besoin de ce lavage des pieds dont il est question finalement ici. On lui fait connaître le péché qu'il a commis, et alors il amène une offrande, un bouc, un mâle sans défaut, etc. Pas entrer dans le détail de ce sacrifice, mais on voit que, on comprend bien que cela a des répercussions toutes particulières au milieu du peuple de Dieu. Mais ici, non seulement les chefs avaient suivi cette mauvaise voie, mais ils en étaient inconscients. Et on peut dire que Dieu, dans sa grâce, va se servir de ce cher Esdras, ce serviteur fidèle, dont on voit tout au long, déjà dans les chapitres précédents, les exercices devant Dieu. Eh bien, c'est lui qui va être le premier, en quelque sorte, à s'humilier. Il s'humilie lui-même, n'est-ce pas? Alors qu'il, une fois de plus, on n'a pas le sentiment qu'il soit vraiment coupable lui-même, mais il fait sien le péché de ses frères. Vraiment, on peut dire qu'il va manger le sacrifice pour le péché dans un lieu saint. Voilà, il s'en humilie, et on voit comment Dieu a béni cette humiliation sincère chez son serviteur, puisque vers lui se sont assemblés tous ceux qui tremblaient aux paroles de l'Éternel, aux paroles du Dieu d'Israël, et à cause du péché de ceux qui étaient transportés. Et peut-être que nous avons quelque chose à remarquer qui est à la fois encourageant et sérieux, c'est que peut-être nous attendrions que d'autres frères ou sœurs réalisent ce qui n'est pas à la gloire de Dieu au milieu du rassemblement. Eh bien, nous voyons que nous avons cette responsabilité devant le Seigneur de commencer, en quelque sorte, à réaliser pour nous-mêmes. Puis le Seigneur, dans sa grâce, opère pour que d'autres aussi soient réveillés, et par leur crainte pour le Seigneur.
Autrement dit, il ne peut plus, dans l'apparence, rester ce qu'il était. Et alors, son comportement exprime justement qu'il montre cette indignité. Et puis, il s'assoit désolé. Un frère, maintenant auprès du Seigneur, s'était arrêté sur cette expression. Il avait été marqué par cette expression. On m'en avait parlé un jour et il m'avait dit, tu vois, Jacques, Esdras était là. Et il s'assoit désolé. Il a le sentiment d'être indigne parce que le peuple, ce qui appartient à Dieu, c'est lui. Il est touché lui-même dans ses affections profondes, et il faut que Dieu intervienne et lui se place là. il n'est plus digne d'une fausse apparence, il se tient là, il s'assoit, désolé, il reste là, il attend. Dieu voit, Dieu va faire quelque chose, lui ne s'autorise plus aux fausses apparences. Et alors, Dieu fait quelque chose, effectivement, et vers lui s'assemblent ceux qui, comme lui, sont attachés à la parole de Dieu, aux intérêts divins, ceux qui tremblent aux paroles du Dieu d'Israël, qui ont conscience du péché de ceux qui avaient été transportés. Et puis, il reste là, avec eux, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Il y a cette présentation à Dieu d'un sentiment profond qui atteint tout l'être, et puis cette attente du secours que Dieu ne va pas manquer de donner. Mais cette attente, l'homme ne se manifeste plus d'une fausse manière. Il est vidé dans une pleine conscience des choses. Il dit à Dieu, se tient là et attend. Est-ce que nous savons comme cela, attendre? Est-ce que nous n'avons pas souvent tendance à nous agiter, à chercher quelque chose, à faire quelque chose? Il faut être bien marqué par cette expression répétée au début et à la fin du verset 4, « Je m'assis désolé, je restais assis désolé. »
Est-ce qu'on peut citer deux versets dans le psaume 39 en relation avec ce que vient de dire notre frère? Psaume 39, verset 7, où on voit le David dire « Et maintenant, qu'est-ce que j'attends, Seigneur ? Mon attente est en toi. » Verset 9, « Je suis resté muet, je n'ai pas ouvert la bouche, car c'est toi qui l'as fait. »
Il y a donc, si on regarde de près dans ce passage, plusieurs étapes. Il y a eu donc d'abord cette information pour Esdras. On s'est pas trompé de porte. On savait que c'était Esdras qui avait l'autorité morale, spirituelle, et c'est lui qui est informé, et c'est lui le premier qui mesure la gravité de la situation. Et comme on l'a dit, c'est pas pour s'agiter, mais c'est pour rester un moment de bouche fermée, comme le dit le psaume aussi. Et là, assez longtemps, puisque jusqu'au soir. Puis il y a eu alors ce qu'on n'a pas vu chez Daniel 9, malheureusement, on a voit Daniel que, tout seul. Là, il y a eu donc des associations de cœurs, les cœurs arrivent les uns après les autres dans le même état de désolation, et il y a une communion dans cette humiliation silencieuse. Mais ça ne suffit pas, il va falloir faire une confession. Alors, on se lève, je me levais de mon humiliation, et il se lève, mais pour de nouveau se prosterner et s'agenouiller, et alors va commencer toute la confession orale qui correspond à cet état du cœur. Étape suivante, c'est au chapitre 10. Alors, devant cette manifestation, il y a un témoignage rendu. Et cela réveille, ça va réveiller la conscience de ceux qui sont vraiment impliqués dans cette affaire. Et c'est au chapitre 10, alors que le peuple lui-même va venir, une très grande congrégation, et qui vont plaire et dire « Nous avons été infidèles », et ce sera une seconde confession. Une confession qui aura peut-être un caractère plus solennel encore, puisque vraiment ce sera cela qui était impliqué. Alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est cette notion d'offrande du soir. Ce n'est pas pour rien qu'il nous est donné. Il y a la notion d'offrande du soir, dit au verset 4 et au verset 5. Donc, la notion d'une nécessité. S'il n'y avait pas eu une offrande, l'offrande divine, l'offrande de notre Seigneur, eh bien, l'humiliation n'aurait eu aucune utilité. Si l'humiliation aboutit au pardon, ce qu'il y a eu est toujours une base pour la justice divine pour pouvoir pardonner. Il faut l'humiliation, mais il fallait avant une offrande du soir. Si je dis ça, c'est parce que on fait allusion à d'autres cas. En particulier, nous pouvons citer deux autres cas. Le cas, par exemple, précisément qu'on a vu ce matin dans Samuel 7, où il y a eu ce retour du peuple, et où Samuel est là pour crier l'Éternel, pour intercéder, parce que le peuple maintenant est sur la bonne voie, il est en train de revenir, de répandre une libation d'eau. Et il nous est dit qu'au verset 9, et Samuel prit un agneau de lait, offrit tout entier à l'Éternel en holocauste. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pourquoi il l'exauça? D'abord, parce qu'il y avait cet agneau, un parfait sacrifice pour le péché, quoi qu'il soit dit en holocauste à l'Éternel. Et il y a eu aussi les cris d'intercession de Samuel. De même qu'il y aura l'invocation et les paroles de supplication d'Esdras à l'offrande du soir. Il y a aussi un autre cas, c'est le cas, peut-être juste cité, dans Deux Rois 3, lorsqu'il y a un moment assez dramatique où on a vu la mort de près, c'est quand les rois d'Édom, de Juda et d'Édom, le roi d'Israël, de Juda et d'Édom, partent en guerre contre le roi de Moab, et on manque d'eau. Il n'y avait pas d'eau du tout. Et c'était vraiment désespérant. Alors, au chapitre 3, verset 20, il y a eu ce joueur de harpe qui nous évoque la notion de prière, de supplication. Et alors ensuite, au verset 20, « Et il arriva au matin à l'heure d'offrir l'offrande que voici les eaux vertes du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. » L'exaucement. Mais on peut remarquer que ce n'est pas par hasard qu'il ait fait allusion chaque fois de cette offrande nécessaire qui est le fondement de toute exaucement. Mais il faut bien sûr aussi cette humiliation qui nous occupe aujourd'hui.
Se rend compte de la gravité de ce qui se passe quand on lit le verset 2. Ils ont mêlé la semence sainte avec les peuples des pays. La semence sainte. Dans le chapitre qui précède, Esdras a dit à ceux qui l'accompagnaient, au verset 28, « Vous êtes saints, consacrés à l'Éternel. » Esdras, qui s'était appliqué à rechercher la loi de l'Éternel, à faire, à l'enseigner, savait que l'Éternel avait dit au peuple dans l'Exode, au chapitre 19 et au verset 5, même verset 4, « Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » Et après, ils ont dit tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Une nation sainte. Une nation qui m'appartient. Et quand on lit dans la raison pour laquelle Dieu a voulu ce peuple, on peut le lire dans Deutéronome. C'est important pour nous aussi aujourd'hui. Dans le Deutéronome 6 ou 7, 7, c'est quand l'Éternel ton Dieu t'aura introduit dans le pays, et nous y sommes bien, dans le livre d'Esdras, au verset 6, « Tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi, afin que tu sois pour lui, un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre toutes les nations qui sont sur la face de la terre. » Et ensuite, le paragraphe suivant nous apprend la raison que Dieu a trouvée pour choisir ce peuple pour lui, car, verset 7, « Vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé, et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte, t'a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Un peuple mis à part, saint, c'est-à-dire consacré, mis à part pour Dieu, pour le plaisir de Dieu. Un peuple qui satisfasse le cœur de Dieu. Et Dieu ne voulait pas que ce peuple se mélange aux autres peuples. Et c'était une abomination, c'était une vraie fornication, c'était une tromperie. Et ça, c'est quelque chose qui faisait mal à Dieu. Ce peuple choisi va se mélanger. Non, c'est pas possible. C'est comme ici, quelqu'un dont la femme le tromperait. C'est aussi grave pour Dieu. Et on voit les sentiments de Dieu. Je t'ai choisi parce que je t'ai aimé. Et ici, le fait que ces quelques-uns qui sont montés avec Esdras ont le sentiment d'avoir été choisis, d'avoir été mis à part. Et par amour pour leur Dieu, eh bien, se rendre compte, parce qu'il y a une relation avec Dieu, de la gravité de ce qui se passe. Et pour nous, nous sommes aussi une nation sainte. C'est pour ça qu'on peut faire aussi une relation vraiment avec nous aujourd'hui. Quand on lit dans la première épître de Pierre, nous sommes aussi une nation, nous les croyants, qui ont accepté Jésus pour nous-mêmes, qui l'appelons Seigneur, comme on nous l'a dit ce matin. Eh bien, nous sommes mis à part pour lui. Et il faut lire cela dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Au chapitre 2 et au verset 9. « Mais vous êtes une race élue. » Voilà, c'est le choix divin. Comme on a vu dans le Deutéronome, Dieu a choisi. C'est dans notre nature. Nous sommes une race. Donc, quelque chose de nouveau qui a été pris pour être pour Dieu. Une race, donc, élue. Une sacrificature royale. Donc, ceux qui ont été mis ainsi à part ont une fonction. Et c'est comme aussi dans Exode, pour être pour Dieu. Ensuite, nous lisons une nation sainte. C'est pas seulement un pays. C'est donc une organisation. Une nation, c'est une organisation avec des règles. Et ce n'est pas les règles du monde, c'est des règles spéciales à cette nation qui sont données par le Seigneur. Et nous nous soumettons personnellement et ensemble à l'autorité du Seigneur. C'est ça, une nation sainte. Et d'ailleurs, si on avait vu une sacrificature royale, c'est pour dire que c'est dans un royaume. Un royaume dont le chef est le Seigneur aussi. Nous sommes là toujours dans cette sphère-là. Et un peuple acquis. Est-ce que nous avons oublié cela? Un peuple acquis. À quel prix nous a payé si cher? Alors si nous rendons compte que nous avons été payés si cher, alors nous l'aimons. Si nous l'aimons, nous voulons lui faire plaisir. Nous voulons lui faire plaisir parce que nous l'aimons. Alors nous ne voulons pas du tout être mélangés avec ce qu'il a en abomination. Alors c'est ici, ils ont mêlé la semence sainte avec les peuples du pays. Et Ezra se rend compte comme c'est triste, comme c'est terrible pour ce Dieu qu'il aime, qu'il a recherché, qu'il a appris à connaître dans la loi. C'est un peu la même chose pour Daniel. Il s'est rendu compte que le peuple en était là parce que il avait fait ce qu'il faut pour cela. Parce que Dieu avait averti. Dieu n'a pas pris par derrière, il avait averti. Si tu n'obéis pas, si tu n'écoutes pas, alors voilà ce que tu risques. Et ils ont risqué cela, ils ont pris des risques et ils en étaient là. Mais Daniel, qui aimait son Dieu et qui aimait le peuple de Dieu, eh bien, est là, devant Dieu, recherche Dieu. Esdras, qui aime le peuple de Dieu, qui aime Dieu, se trouve là dans la présence de Dieu, dans l'attitude qui convient. Parce que le fait de se tenir dans la présence de Dieu nous amène dans l'attitude qui convient. Il n'y a pas de prétention là. Mais on se met tel que l'on est devant Dieu. Et peut-être juste un mot sur justement les chefs et les princes. On a vu ce matin qu'il y avait des princes, qu'il y avait des rois, qu'il y avait le peuple. Et chacun est exhorté à écouter. Et puis ici, il y a aussi des chefs, et que les responsabilités sont différentes. Et justement, juste une petite remarque avec dans le livre des Nombres, concernant les princes, et les princes ou les conducteurs, et c'est peut-être, on peut trouver ça dans le chapitre 10 des Nombres, pour se dire que qu'est-ce qui va faire la qualité d'un bon conducteur, d'un bon prince pour nous aujourd'hui ?
on peut se dire, oh, c'est quelqu'un qui nous enseigne bien la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment cela? Eh bien, en lisant justement dans Nombre 10, où il est parlé de la parole, mais sous la forme d'une image qui est la trompette. Et c'est important parce que on a vu Esdras, la parole c'est tellement important, il écoute. Daniel, la parole de Dieu, il a écouté, il a lu. Eh bien, dans le chapitre 10, il est parlé de deux trompettes. Et fais-toi deux trompettes, tu les feras d'argent battu, et elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. Les deux trompettes vont servir pour la convocation de l'assemblée. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au verset 4, et si l'on sonne d'une seule, alors les princes, les chefs des milliers d'Israël s'assembleront vers toi. Une seule trompette suffit pour eux. Pourquoi? Pas parce qu'ils parlent bien, mais parce qu'ils ont des bonnes oreilles. Et ce qui est important, c'est que pour les conducteurs, pour les princes, pour les chefs, c'est qu'ils aient des bonnes oreilles. C'est-à-dire qu'ils sachent écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Ils sont plus responsables que les autres.
Pouvons peut-être citer à propos de, sur, au sujet du propos de Dieu quant à son peuple, le nombre 23, où il est dit à propos de ce peuple qui ne devait pas se mélanger, en effet, nombre 23, verset 9, voici, c'est un peuple qui habitera seul, il ne sera pas compté parmi les nations. Et dans Exode, quand Moïse, qui a la pensée divine et qui intercède encore, il dit au Exode 33, verset 16, « Car à quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. » Donc c'est une notion connue de Moïse, mais qui est bien le propos de divin. Même Balaam, poussé par l'esprit, un peu contre son gré, sûrement contre son gré, a été obligé de déclarer que c'est un peuple qui ne sera pas mélangé. Et c'est un principe que nous connaissons plus que nous ne le pratiquons peut-être. En tout cas, nous sommes réveillés dans cette notion de séparation avec tout ce qui est le principe du monde, et en particulier de tout le mal qui est dans ce monde, et puis être séparé aussi même du monde, même quand il a un aspect religieux. Voilà, alors c'est ce qui était qui remplissait le cœur et la conscience d'Esdras maintenant, et qui va le pousser à ouvrir la bouche dans une confession à partir de l'offrande du soir. D'ailleurs, on l'a pas dit ce matin, mais dans Daniel 9 aussi, il est question aussi de l'offrande du soir. Juste le citer avant de quitter ce passage de Daniel 9. Il nous est parlé au verset 21, lorsqu'il parlait encore en priant, que l'homme Gabriel qu'il avait vu dans la vision au commencement volant avec rapidité me toucha vers le temps de l'offrande du gâteau du soir. Il y a, chaque fois qu'il y a eu une question d'exercice, d'humiliation et d'intercession, voilà l'offrande du soir qui est évoquée. Mais enfin, ce n'est pas la peine de revenir maintenant dans ce premier passage, puisque nous sommes dans Esdras.
Revenir sur le principe donc de cette séparation avec le monde qui nous entoure. Un verset qui a toute son importance, me semble-t-il, dans le livre du prophète Osée. Osée, chapitre 7, verset 8. Éphraïm s'est mêlé avec les peuples. Verset 9. Des étrangers ont consumé sa force et il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Voilà le résultat donc de ce mélange. Il s'est mêlé avec les peuples. Des étrangers ont consumé sa force. Il ne le sait pas. Plus loin, des cheveux gris sont aussi parsemés sur lui et il ne le sait pas. Voilà le résultat, donc. Et c'est pourquoi nous, la parole, donc, est là pour nous avertir. Et nous avons ces principes-là qui doivent être conservés.
Et bien sûr, il ne faudrait pas penser un seul instant que ce que nous lisons là n'a finalement de raison d'être s'adresser qu'au peuple de Dieu sur la terre, et donc dans l'Ancien Testament. Nous savons, je pense tous, que la parole de Dieu est très claire à cet égard dans le Nouveau Testament. Je lirai simplement un passage dans l'Épître de Jacques, d'abord, au chapitre 4, où il nous est dit au verset 4, Jacques 4, verset 4, adultère, voilà comment Dieu parle. Adultère, c'est quelqu'un qui montre son infidélité. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Qui donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Et dans la deuxième aux Corinthiens, passage que nous connaissons bien sûr très bien, je suppose, mais que nous vivons bien mal, au chapitre 6, il nous est dit au verset 14, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Quel que soit ce joug, bien sûr, avant tout, c'est celui certainement du mariage, mais aussi, il y a bien d'autres occasions où nous pourrions être de pair accompagnant avec le monde, avec des, ne serait-ce que dans les activités du travail, et alors que rien ne nous y oblige parfois, et avec des conséquences extrêmement graves, parce que il est évident que nous ne poursuivons pas, faut du moins l'espérer, les mêmes buts. Alors, les versets suivants, j'espère que nous pourrions peut-être citer par cœur, mais il est dit, quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou la marche sans fin, je pense ici, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, ou quel accord de Christ avec Béliar, ou quelle part a le croyant avec l'incrédule, et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils, et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. On voit les merveilleuses promesses qui sont faites à ceux qui ont ces choses, on pourrait dire à cœur, par amour pour le Seigneur. Et bien entendu, il ne s'agit pas de mépriser ceux qui nous entourent, bien loin de là. Et nous avons certainement un témoignage à rendre à leur égard, mais quant à la conduite, à la marche, eh bien, c'est très clair, nous ne pouvons que perdre dans un contact trop étroit. Et je voudrais seulement dire que dans Esdras 9, on a bien sûr devant nous ceux qui ont pris leur fille pour eux, mais il est dit un peu plus haut, ils ne se sont pas séparés, toujours dans le verset premier, ils ne se sont pas séparés des peuples du pays quant à leurs abominations. Et elles sont énumérées, celles des Cananéens, des Éthiens, des Périsiens, etc. Tous ces peuples qui avaient habité précédemment dans ce pays et que l'infidélité du peuple avait fait qu'ils n'étaient pas entièrement, ils n'avaient pas été détruits, et ils avaient même quelquefois imposé leur présence, on va en lire tout cela dans le livre par exemple des Juges, et ils n'avaient fait que croître et prospérer, et les conséquences sont là. Et je crois que nous devons être rendus très attentifs par le Seigneur, parce que en matière d'idolâtrie, nous pouvons être entraînés d'une manière subreptice, si je puis dire. Je pense en particulier à ce roi Salomon, un roi 11, vous savez combien le Seigneur l'avait béni, et puis il est dit qu'il aima beaucoup les femmes étrangères, chapitre 11 du premier livre des rois, et finalement, elles sont énumérées, d'entre les nations, verset 2, dont l'Éternel avait dit aux fils d'Israël, vous n'entrerez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous, certainement, elles détourneraient vos cœurs après leur Dieu. Et c'est Et c'est ce qui s'est passé pour ce pauvre Salomon, puisqu'il dit au verset 4, au temps de la vieillesse, ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel. Et bien sûr, Salomon est placé là comme un poteau avertisseur, mais retenons pour nous-mêmes que le danger est extrêmement insidieux et grave, peut-être plus que jamais dans le monde où nous vivons. Et je voudrais simplement encore, si vous me permettez, vous citer deux versets dans Josué 23. Vous savez que c'est là les adieux justement de ce patriarche, et il est en train d'avertir les peuples. Il leur dit au verset 6, « Fortifiez-vous beaucoup pour garder, pour pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, afin que de vous en écarter ni à droite ni à gauche, afin que vous n'entriez pas parmi ces nations qui restent parmi vous. » Et alors vous remarquez ici la progression qui parle à nos cœurs, n'est-ce pas ? « Que vous ne fassiez pas mention du nom de leur Dieu. » Voilà, cela peut commencer ainsi. « Et que vous ne fassiez pas jurer par eux, et que vous ne les serviez pas, et que finalement vous ne vous prosterniez pas devant eux. » Vous voyez comment nos cœurs sont faibles, et nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous soit en secours. Certainement que s'il y a une chose qui a beaucoup altéré le témoignage, au milieu duquel le Seigneur nous avait fait la grâce de nous trouver, eh bien, disons-le, c'est la mondanité. La mondanité est justement que nous avons pris l'habitude, peut-être, tout simplement, de mentionner ces dieux et d'en être occupés, jusqu'à venir à nous prosterner, peut-être sans même nous en rendre compte, devant eux, ces dieux qui, dans ce monde, bien sûr, ont toute leur place, à commencer d'ailleurs par Mammon, qui est, bien sûr, les richesses. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et bien sûr, dans ce monde, on place l'argent au-dessus de tout. Et c'est un très, très grand piège pour nos chrétiens.
Peut-être encore citer un passage en rapport avec cette sainteté dans l'Épître aux Thessaloniciens. Première Épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4. C'est intéressant parce qu'il s'agit là de l'un des rares commandements du Seigneur. Verset 2, chapitre 4, verset 2. « Vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. » Non dans la passion et de la convoitise comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. Verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté.
Pour pouvoir s'humilier, il faut être amené, et c'est le travail de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous, de connaître la raison pour laquelle nous nous humilions. Et justement, dans les versets 1 et 2 qui nous sont donnés, il y a en quelque sorte une description précise de ce qui s'est passé. Et on a vu là qu'il y avait des abominations de différents peuples. C'est soit adorer leur Dieu, ou soit vivre de la manière dont vivaient ces peuples. Et on peut juste faire une remarque concernant deux: Moab et l'Égypte. Et on pourrait trouver ça dans le livre de Jérémie et le livre d'Ézéchiel, pour montrer que qu'est-ce que reproche finalement, qu'est-ce qui les caractérise, sans parler du Dieu qu'ils adorent, mais leur manière d'être. Dans Jérémie 48, il y a deux choses qui concernent Moab. Et attention, Moab, c'est tout près du peuple d'Israël, c'est pas la Palestine, mais ça touche, c'est juste là à côté. Et c'est pour dire que c'est juste ce qui peut nous prendre au moment où nous ne nous en rendons pas bien compte. Alors c'est dans Jérémie chapitre 48 et au verset 11. Moab a été à son aise dès sa jeunesse et tranquille sur sa lie. Voilà déjà une première
une première chose qui nous amène à ne plus être séparés, c'est nous laisser aller. Et peut-être dire finalement, je connais bien des passages de la parole de Dieu, je vais régulièrement aux réunions, et puis voilà, c'est ma garantie, cela me suffit. Et on se laisse aller, et puis finalement, la raison de vivre comme chrétien, nous la perdons. Nous éloignons progressivement, notre cœur s'éloigne de Christ, nous n'avons plus d'énergie, nous nous laissons aller, et nous sommes une proie facile. Se laisser aller, être à son aise. La deuxième chose qui nous est présentée, c'est au verset 29. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très hautain, son arrogance et son orgueil et sa fierté et son cœur altier. Ah oui, nous sommes les meilleurs des chrétiens, finalement. Nous avons toute la parole de Dieu, on nous l'a enseigné, j'ai une bibliothèque pleine de bons livres, et beaucoup de chrétiens n'ont pas ça. Alors, voilà, je suis un bon chrétien. Mais ça ne vous rappellerait pas ce qui est dit, et comme le reproche qui est dit à Laodicée, justement. On peut peut-être trouver les deux côtés de Moab avec Laodicée. Quand il est dit dans le chapitre 3 de Apocalypse, qu'est-ce qui nous est dit exactement ? Dans Apocalypse 3, alors, tu n'es ni froid ni bouillant, ah, tu es tiède. Voilà, c'est pas plus de réaction, se laisse aller, tu es tiède. Et puis, la deuxième chose, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Pourtant, voilà, je suis un homme riche. Alors, je connais bien la Bible. Qu'est-ce que nous lisons ici ? Je n'ai besoin de rien. Alors, si je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Pas besoin de prier. Donc, le rayon de prière, pas tellement important. Je n'ai besoin de rien. Je connais assez. Je n'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Je connais. Je suis prétentieux. C'est l'autosuffisance, ça. Ça, c'est Moab. C'est l'abomination de Moab. Eh bien, voilà le risque. C'est pas si loin que ça, finalement. Mais c'est le risque que nous avons. Je suis riche, je me suis enrichi. Et si je pense être riche, alors toi, à côté de moi, tu es pauvre. Tu en sais moins que moi. Et le résultat du risque, c'est le mépris. Et alors, nous trouvons, après, dans Ézéchiel, alors nous trouvons l'Égypte. Alors, il y a quelque chose de bien caractéristique concernant l'Égypte. Et c'est au chapitre 29. Chapitre 29 d'Ézéchiel, fils d'homme, verset 2. Tourne ta face contre le Pharaon, le roi d'Égypte. Prophétise contre lui, contre l'Égypte tout entière. Parle et dis, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, le Pharaon, roi d'Égypte, grand monstre des eaux, couché au milieu de ses fleuves, qui dit, mon fleuve, c'est le Nil, est là, est à moi, et je me le suis fait. Et au verset 9, il reprend, le fleuve est à moi, et moi je l'ai fait. Voilà quelqu'un qui se prend pour Dieu. Et si un chrétien se prend pour Dieu, il devient le juge de ses frères. Eh bien, c'est aussi une abomination. Et c'est aussi un risque. Et alors, peut-être que si, justement, cette description nous est donnée, et peut-être qu'il ne faut pas y rester trop longtemps, mais ce n'est pas pour mon frère, pour ma sœur que cela est dit, mais pour moi-même. Finalement, dans mon cœur, où est-ce que j'en suis dans toutes ces abominations ? Et puis il y en aurait d'autres, on pourrait rester. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis comme Esdras, qui porte pour soi-même le péché qu'il a constaté, dont il n'est pas responsable personnellement, puisqu'il n'a pas commis ce péché, mais il s'identifie avec ce péché. Pourquoi ? Parce qu'il fait corps avec ce peuple. Alors à ce moment-là, s'il fait corps avec ce peuple, il n'aura pas envie de critiquer ceux qui ont fait cela, puisque c'est lui-même, comme si c'était lui. Et il se met à cette place d'humilité. Humiliation et humilité, cela va ensemble. Et peut-être que là, nous avons beaucoup à apprendre. Est-ce que nous savons décrire devant le Seigneur, quand nous prions, les causes de notre faiblesse aujourd'hui ? Lui dire, voilà, non pas nous,
d'une manière générale, en pensant un peu les autres. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on en soit là? Et certainement qu'il faut bien penser que nous ne pourrons jamais être tous arrivés au même niveau de connaissance de cette situation. Il y a des responsabilités différentes. Et c'est normal qu'un jeune croyant, eh bien, c'est pas son sujet en quelque sorte. Celui qui vient de naître de nouveau, son sujet, c'est la joie du Seigneur et c'est vivre pour lui et finalement être une locomotive pour ses frères et sœurs. Mais quand on a pris quelques années, eh bien, on a quand même chacun de nous, à la différence d'Esdras et de Daniel, participé à quelque chose qui nous a amené dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors, si nous connaissons cela, si par la parole, par l'Esprit de Dieu, nous sommes amenés à discerner où nous en sommes, alors nous allons apprendre une chose, c'est qu'il y a un temps pour s'humilier, mais un temps pour se lever. Et c'est ce que nous verrons à la fin, et peut-être que c'est là où nous avons besoin de discernement pour savoir quand est-ce qu'est le moment de se lever.
Ce que tu viens de dire là me fait penser à un passage dans 1 Corinthiens 5, bien connu. Qu'est-ce qui empêchait les Corinthiens de s'humilier? Eh bien, l'apôtre le dit, vous êtes enflés d'orgueil. Évidemment, si l'orgueil est dans le cœur, ce n'est pas le terrain possible pour une humiliation. Mais ce n'était pas le cas d'Esdras, absolument pas. Et quand on lit ces versets-là d'Esdras, on voit que verset 6, il dit « J'ai honte de lever ma face vers toi, ô Dieu. » J'ai honte, ça fait penser un peu au péager qui n'osait pas lever sa face et frapper la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi, pécheur. » Alors, ce qu'on voudrait faire remarquer maintenant, c'est que Esdras était suscité historiquement après Daniel. Il est arrivé après. Et il est amené donc à faire un historique plus étendu. Après avoir constaté les faits immédiats, là, après avoir été informé de la situation terrible, quand il va faire cette confession, qu'il va se lever justement, puis se prosterner en s'agenouillant et en faisant sa confession, eh bien, il va évoquer plus de choses que ne l'a fait Daniel. C'est-à-dire qu'il va d'abord, comme Daniel, reconnaître que la captivité dont tant d'années, ce n'était que justice. Et, comme il le dit, là, nous avons été grandement coupables, verset 7, à cause de nos iniquités, et non seulement nous, mais nos rois, nos sacrificateurs. Alors nous avons été livrés dans ces pays, comme ça avait été annoncé à maintes reprises, et par Josué, et surtout par Moïse. Eh bien, donc l'Éternel ne nous a pas pris au dépourvu, on l'a déjà dit. Alors, après avoir constaté ça, il constate qu'il y a eu, malgré tout, au bout de 70 ans, une faveur, c'est le verset 8, faveur de la part de l'Éternel, notre Dieu. Alors, une faveur absolument imméritée, toute grâce, comme toujours quand Dieu agit, pure grâce. Eh bien, voilà que, malgré tout, voilà que, ayant été au bénéfice de ce retour, même faible, mais dans la joie, où il y a eu la joie et les larmes s'étaient mêlées, nous le savons, eh bien, voilà que, malgré tout, eh bien, il y a de nouveau une infidélité. Et c'est ce qu'il dit un peu plus loin. Ils sont revenus, bien sûr, ils ne sont pas revenus comme chez eux, ils sont revenus comme serviteurs, mais enfin c'était leur terre, et c'était l'emplacement du sanctuaire, l'emplacement pour l'adoration, et aussi l'emplacement pour les murailles. Tout avait été remis sur pied, tout en étant encore serviteur, comme il le dit au verset 8. Mais ce n'était pas une... Quelle honte maintenant que de te retomber dans cette turpitude dont il est question au début du chapitre. Là, on voit que rien n'est négligé dans ce passé qui est évoqué par Esdras, tout à la gloire de Dieu, à la gloire de sa grâce et à la confusion de lui-même et de son peuple.
En arrière,
On a dit ce qui empêche justement l'humiliation dans les Corinthiens, c'est l'orgueil. Vous êtes enflé d'orgueil. Nous voyons qu'ici, Esdras n'a pas cet orgueil, justement, parce qu'au verset donc 3, j'entendis cela, je déchirai mon manteau et ma robe, et je rachai les cheveux de ma tête, et puis je restai assis, désolé, et puis, verset 5, lors de l'offrande du soir, je me levai de mon humiliation, et mon manteau et ma robe déchirai, je m'agenouillai, et j'étendis mes mains vers l'Éternel. Le manteau et la robe déchirée montraient justement le fait d'abandonner sa gloire, sa propre gloire. C'était un prince, Esdras. C'était pas le dernier venu. C'était quelqu'un qui était à la tête. Alors, dans ce temps-là, nous le savons, la vêture importait beaucoup pour distinguer les gens les uns des autres. Eh bien, il déchire le manteau, il déchire sa robe. N'est-ce pas? Les voici assis, attendant. Et quand il se lève, il reste avec sa robe déchirée et son manteau déchiré. Il n'en a pas mis une nouvelle, il n'a pas pris un autre manteau. Il est resté tel qu'il était dans son humiliation. Et il va s'adresser à Dieu dans son humiliation.
Je vais rappeler un passage dans Ézéchiel, au chapitre 16. En rapport avec cet orgueil, justement, qui caractérise ceux qui s'élèvent contre Dieu. Verset 49 du chapitre 16 d'Ézéchiel. Voici, c'est ici l'iniquité de ta sœur Sodome. C'est une prophétie à l'égard de Jérusalem. Et l'iniquité est la même. L'orgueil, abondance de pain, elle est souciée en repos, elle les a possédés, elle et ses filles, mais elle n'a pas fortifié la main. La figée du pauvre. N'est-ce pas ce qui nous caractérise aujourd'hui? Orgueil, abondance de pain et un souci en repos dans ces pays dits riches dans lesquels nous sommes.
Mon Dieu, je suis confus et j'ai honte de lever ma face vers toi. Être confus. Comme quelqu'un qui est pris sur le fait dans une mauvaise situation, être confus. Je suis confus. J'ai honte de lever ma face vers toi, ô mon Dieu. Or, Esdras, c'était un homme de Dieu. Mais lui aussi, s'identifiant au péché du peuple, alors il peut dire, je suis confus. De voir ton peuple dans un tel état, eh bien, je suis confus. J'ai honte. Et nous pourrions aussi avoir quelques sentiments de la sorte, en voyant l'état du témoignage, n'est-ce pas, dire, mais je suis confus, j'ai honte. Voilà. Une chose que Dieu avait suscitée pour manifester sa grâce, pour aussi, pour montrer son dessein à l'égard de tous ceux qui croient. Et puis voilà. Voilà où ceux qui l'avaient chargé justement de ce témoignage, voilà où ils en sont, où j'en suis, où nous en sommes. Eh bien, j'ai honte.
Au début, on remarque qu'il parle, il dit « mon Dieu » plusieurs fois au chapitre verset 6, « mon Dieu, oh mon Dieu » verset 6. Après, il dira « notre Dieu » à partir de verset 8, verset 9 aussi. Mais si on veut comprendre un peu cette honte, ne peut-on pas l'assimiler, par exemple, à la honte qui viendrait dans une famille, que ce soit un membre de cette famille est un sujet de honte, et bien toute la famille a honte. C'est l'esprit de famille, l'esprit de corps. Et bien, c'est bien cela, dans un peuple où on est solidaire absolument, et même si on n'a pas été soi-même la source de cette honte, eh bien, on a honte, de même que on est heureux et glorifié lorsqu'il y a quelque chose qui se passe de bon. On pense à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, d'ailleurs, on a cité ce verset, et peut-être quelquefois on le comprend mal, quand il dit que nous ne soyons pas couverts de honte à sa venue. On ne sait pas si c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais enfin, il y a un nous apostolique, notre honte, en effet,
si il y a de l'infidélité, si l'apôtre a travaillé en vain, si vraiment ce qu'il a semé n'a pas prospéré, eh bien il y a la honte. Il le dit très nettement pour les Corinthiens, en particulier les Corinthiens pouvaient être pour lui-même un sujet de honte ou un sujet de gloire. Et combien il désirait pouvoir se glorifier des Corinthiens, être un sujet de joie ou un sujet de tristesse. Voilà peut-être comment nous pouvons comprendre cette participation d'Esdras, comme de Daniel, aux exercices.
Parce que nous sommes solidaires, il faut souligner cette solidarité. Nous ne sommes pas nous sommes bien sûr sauvés individuellement, mais nous marchons ensuite en collectivité, en assemblée encore. Et alors nous sommes solidaires les uns des autres. Et si un membre souffre, eh bien voilà, tout le corps souffre. Si un membre est honoré, tout le corps est honoré. Mais nous sommes solidaires aussi dans le mal. Et nous devons confesser ce mal comme ici. Esdras l'avait compris.
C'est d'autant plus remarquable quand on pense à ce qu'avait été la course d'Esdras en effet jusque-là. Il aurait pu dire facilement à Dieu, tu vois tout ce que j'ai fait pour ce peuple, combien j'ai vraiment fait un effort en passant à tout ce chemin parcouru, n'est-ce pas, pour venir là, les difficultés qu'il avait rencontrées, il n'y avait pas de Lévites qui se joignaient à eux, il les a envoyés chercher, etc. Que de choses, on voit comment il y avait vraiment, on pourrait dire, le premier amour dans le cœur d'Esdras, et un amour réel pour le Seigneur. Et puis voilà que tout s'effondre. Je crois que, évidemment, nous considérons Esdras, et c'est certainement pour nous un exemple, c'est beau, mais comment ne pas penser au Seigneur Jésus lui-même et à ce que le Seigneur a connu ici-bas, quand il peut dire, pour toi j'ai porté l'opprobre, quand il est devenu même la chanson des buveurs, etc. Puis, quand même, le Seigneur il nous a dit, il nous a laissé un exemple, un modèle, afin que nous suivions ses traces. C'est quand même lui, présentement, qui est là devant nous. Il s'est approché infiniment de nous. On a lu ce beau passage, bien sûr, dans l'Épître aux Philippiens, où le Seigneur qui s'est anéanti lui-même. Bien sûr, nous n'irons pas, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout sur ce chemin-là, mais quand même, le Seigneur nous invite à le suivre. Nous chantons très facilement ce verset cantique « Dans l'humilité profonde, suivant ton obscur chemin, et où nous pouvons te suivre, Jésus, dans l'humble chemin où tu consentis à vivre. » Et quand même, le Seigneur, maintenant, nous dit, voilà, c'est en prenant votre place dans une réelle humiliation que vous serez dans l'esprit qui a été le mien. Le Seigneur veut aussi nous relever, il faut le dire tout de suite, mais cela passe par ce chemin-là. Autrement, il n'y a pas de restauration possible.
Alors, il nous faut pas avoir honte de présenter ces sujets qui concernent l'Assemblée devant le Seigneur. Parfois, je le dis par expérience personnelle, il est parfois difficile de prier dans l'Assemblée pour ces sujets que nous connaissons très bien et qui sont sur notre cœur. Nous ne savons pas toujours les présenter comme il convient, mais il est vrai que le Seigneur connaît nos cœurs et connaît ce qu'il y a, mais nous pouvons en toute liberté les pencher. Nous prions certainement aussi pour que les frères demeurent fidèles dans l'Assemblée. Nous prions pour ceux qui se sont écartés, mais que nous n'ayons pas de honte de prier pour l'Assemblée.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la constatation des dégâts, mais ensuite, il ne faut pas toujours rester devant les décombres, il faut se lever et puis demander la force de reconstruire. Et c'est peut-être amené par ces petits mots qu'on voit là plusieurs fois, ce mot « et maintenant », n'est-ce pas, au verset 10, « et maintenant », et au verset 12, c'est « et maintenant ». Et on l'avait vu dans Daniel 9 aussi, Daniel 9, verset 17, « et maintenant, écoute, ô Dieu, la prière de ton serviteur ». Il y a quelque chose qui est le contraire du découragement. C'est pas le tout se lamenter, il faut se lamenter, mais il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, dit l'Ecclésiaste. Ce n'est peut-être pas encore le moment de se réjouir, mais en tout cas de demander vaillamment et avec audace, avec hardiesse, la solution au Seigneur, et ne pas avoir peur justement de demander des choses qui peut-être à notre jugement apparaissent excessives, apparaissent peut-être impossibles. Eh bien, il ne faut pas, en effet, il faut oser prier et dire: et maintenant, eh bien, Seigneur, écoute la prière de ton serviteur, ou là, au verset 10, et maintenant, ô Dieu, que dirons-nous? Eh bien, il continue, et puis au verset 12, et maintenant, ne donnez pas vos filles à leurs fils, ne prenez pas, etc. Quoi. Il s'agira de rétablir, c'est ce qui se fera au chapitre 10. Il s'agit de ne pas toujours rester à se lamenter et puis croire que ça suffit.
Verset 9, il y a une parole encourageante d'ailleurs, n'est-ce pas? Dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Effectivement. Ils n'étaient pas très nombreux à Jérusalem, mais enfin, ils en avaient quelques-uns. Et Dieu ne les avait pas abandonnés, n'avait pas abandonné son peuple. Il ne nous a pas abandonnés. Il a étendu sa bonne main sur nous devant les rois de Perse afin de nous redonner la vie, pour élever la maison de notre Dieu et pour restaurer ses ruines et nous donner des murs en Juda et à Jérusalem. Voilà ce que Dieu avait fait et voilà ce qui encourageait Esdras à prier. Alors évidemment, le mal, ça paraissait encore plus mauvais, mais il détourne les yeux de ce qui a fait sa honte et maintenant il regarde à Dieu.
Et justement, à l'ingratitude du peuple répond la miséricorde de Dieu. Et on le voit déjà au verset 8. D'abord, par une faveur de la part de l'Éternel pour nous laisser des réchappés, déjà. Il y a plusieurs qui sont là conscients de ce qui se passe et qui vont pouvoir rechercher et agir de manière à ce que Dieu soit glorifié. Ensuite, il y a pour nous donner un clou dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et redonne un peu de vie. Voilà un clou qui va éclairer. De quoi s'agit-il? Eh bien, par une expérience que j'ai connue en allant au Pérou, pourra peut-être expliquer ce qu'est un clou. Dans les régions d'Amazonie, les maisons sont... Il y a un toit, il n'y a pas de mur, et il y a des poteaux. Et les choses de valeur sont suspendues. Il faut un clou, un pieu, contre ces grands poteaux qui maintiennent la toiture. Et donc, ce qui est précieux est suspendu à un clou au centre de la maison, de manière à ce que les intempéries, les bêtes, ne viennent pas toucher et souiller cela. C'est mis dans un endroit bien, bien particulier. Eh bien, ici, nous avons donné un clou dans son saint lieu afin que notre Dieu éclaire nos yeux. Et on peut lire deux ou trois versets qui nous parlent de ce clou et on voit c'est Christ. Et on va justement trouver Christ, c'est ça la faveur. C'est pas une doctrine, non, c'est une personne qui va éclairer. Alors, on pourrait aller voir dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 22, Ésaïe 22, et le verset 22, d'Ésaïe 22, « Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, il ouvrira et personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira, et je le fixerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un trône de gloire pour la maison de son père. » Et on suspendra toute la gloire de la maison de son père sur lui. Voilà, c'est la gloire de Christ qui est là présentée, et qui est là au centre, dans le saint lieu. Christ dans sa gloire. Quand on va un petit peu plus loin, dans Zacharie, d'ailleurs, si on lit un peu après, on voit que quelqu'un a usurpé la gloire, et c'est l'Antichrist, verset 25 de ce chapitre 22 d'Ésaïe. D'ailleurs, on peut juste le lire. Et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, le clou fixé en un lieu sûr sera ôté et sera brisé, tombera, et le fardeau qui y est suspendu sera coupé, car l'Éternel a parlé. C'est la destruction de l'usurpateur, donc de l'Antichrist. Alors maintenant, dans Zacharie, on peut lire au chapitre 10 et au verset 4. De lui est la pierre angulaire, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortent tous les dominateurs ensemble, de lui, Christ, qui est présenté là, avec toute son autorité, toute sa puissance. Mais il y a encore un verset intéressant, et c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, qui nous parle d'un clou. Dans le chapitre 12 d'Ecclésiaste, et au verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Eh bien, les paroles des sages, ces frères qui peuvent être des aides, justement, pour nous présenter Christ, pour nous présenter la ressource, au moment où, justement, nous avons vraiment reconnu ce que nous étions. Nous avons déterminé quel est le mal, que nous l'avons mis aux pieds du Seigneur Jésus. Peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, nous serions non seulement confus, mais tellement découragés. D'oublier ce qui nous est dit dans les versets 8 et 9. La ressource est là, le clou est là, nous a été donné comme une faveur pour redonner un peu de vie. Dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, il ne nous abandonne pas, il n'abandonne personne. Même si nous avons commis le pire des péchés, nous ne sommes pas abandonnés, mais nous avons la ressource. Quand nous avons pris conscience de l'état où nous sommes, revenons à celui qui veut redonner un peu de vie. Veut-il le donner? Oui, il a étendu sa bonté sur nous devant les rois de Perse, afin de nous redonner la vie en allu, nous élever, restaurer, donner des murs. Alors il redonne tout. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un juge qui va nous enfoncer. Non, justement, il y a dans un psaume, et je crois que c'est 75, où il y a, au moment où nous serions découragés, en prenant conscience de la pression de l'ennemi, de ce que nous sommes devenus, et cette pression qui veut nous enfoncer toujours plus, oui, c'est le diable qui veut empêcher la restauration. Mais notre Seigneur veut nous prendre où nous sommes et nous ramener vers lui. Alors que nous puissions dire aussi, comme disait aussi la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, tire-moi, et nous courrons après toi. Oui, il veut le faire, il est prêt à tendre sa main, il a sa main tendue, mais que notre foi prenne sa main, que nous prenions la main qu'il nous tend, pour justement profiter des ressources de grâce, de miséricorde qui sont là pour nous. C'est maintenant.
Dans l'épître de Jacques, rapport avec l'humiliation et l'opération de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Sentez vos misères et menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous n'avons pas à nous humilier pour qu'il nous élève. La conséquence de l'humiliation, Dieu intervient en grâce, ce que nous voulons d'entendre, et il nous élèvera. Dans le livre des Proverbes, il est dit que l'abaissement va devant la gloire. Nous avons à prendre la place qui nous est due, c'est-à-dire cette place dans l'humiliation, et qui est la seule convenable devant Dieu aujourd'hui, vu l'état actuel du témoignage. Et Dieu interviendra, et c'est là l'espérance du croyant. Nous savons qu'il interviendra à son heure, quand ce sera son moment, mais que nous sommes précieux à ses yeux. Il a payé trop cher pour abandonner ce qui lui a coûté le sang de son propre fils.
On peut bien rappeler les versets du psaume 102, bien connu de nos cœurs, je pense, où il est dit au verset 13, « Tu te lèveras, Tu auras compassion de Sion, car c'est le temps d'user de grâce envers elle, car le temps assigné est venu, car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres et ont compassion de sa poussière. Eh bien, ce qui se passe dans le cœur de ces rachetés, ne l'oublions jamais, Dieu le voit, et il en prend connaissance, et même un soupir vers lui ne passe pas inaperçu. C'est très encourageant, on voit cela dans un psaume. Même un gémissement vers lui n'est pas... Il a toujours de l'importance pour lui. Et ici, on voit que Esdras, finalement, instruit qu'il était des pensées de Dieu. On a vu comment il s'était lui aussi appliqué. Il avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel. Et à la faire, dans le verset 10 du chapitre 7, eh bien, il y a cette prospective dans son cœur, cette espérance qui est une prérogative de la foi. N'est-ce pas ? Il voit l'avenir, si on peut dire. Et nous le voyons aussi, chers amis. Le Seigneur va, de toute manière, le Seigneur va triompher. Il ne peut que triompher. Et ici, vous voyez, c'est frappant. Il s'agit bien sûr de choses qui se passent ici uniquement sur la terre. Mais n'est-il pas frappant qu'ils disent, en quelque sorte, par avance, au verset 9, il a étendu sa bonté sur nous, afin de nous redonner la vie, pour élever la maison de notre Dieu et pour restaurer ses ruines. Bon, la chose avait eu lieu, mais il ajoute, n'est-ce pas, et pour nous donner des murs en Juda et en Jérusalem. Et cela, il n'en était point encore question, et il n'en sera pas question avant Néhémie, n'est-ce pas. Mais il a compris sans aucun doute, d'abord, que la séparation des peuples du pays était dans la pensée de Dieu, qu'il fallait ces murs. Et même si la chose semblait presque définitivement mise de côté à cause de l'état du peuple, eh bien, il s'attache à la promesse et il sait que le Seigneur va faire cela, voyez. Et d'ailleurs, on va le même penser un peu plus loin, quand il dit au verset 13, « Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises œuvres et à cause de notre grand péché », alors il y a des points de suspension, il ajoute, « Mais toi, notre Dieu, mais toi, notre Dieu, tu nous as moins punis que ce que méritaient nos iniquités. » Il rappelle comment Dieu avait quand même usé de grâce une fois de plus. Et de réaliser ce que Dieu avait déjà opéré en laissant revenir un petit résidu, alors qu'il faut bien le dire, ils étaient peut-être bien loin de même d'y penser. Et on voit bien qu'il y en avait beaucoup qui avaient choisi de rester à Suse parce que la vie était bien agréable là-bas. Et quand il s'agit de retourner pour bâtir le temple, on ne s'est pas précipité, si j'ose dire, au portillon, non. Il a fallu même aller en chercher. Mais on voit qu'il a la certitude que Dieu qui a ainsi usé de grâce, qui leur a donné ce clou, comme on vient de le voir, eh bien, il va encore et toujours se glorifier. Il se glorifie, il va user de miséricorde envers nous. Nous pouvons le dire aussi de notre côté. Et bien sûr, il s'agit de se tenir devant Dieu en confessant son état véritable. C'est ce qu'on voit au verset 15. Nous voici devant toi dans notre culpabilité. Vous voyez, il s'associe bien sûr, Esdras. Alors qu'encore une fois, on pourrait dire, mais qu'est-ce que tu as fait, Esdras, qui n'était pas à la gloire de Dieu? Il semble au contraire qu'il n'y a que des choses heureuses dans ta vie. Mais non, il prend sa place au milieu des coupables. Nous voici devant toi dans notre culpabilité. Voilà, et il s'attend à Dieu. Il s'attend à Dieu. Dieu va intervenir. Chers frères et sœurs, nous allons certainement apprendre la même attitude. D'un côté, vraiment, sans complaisance, reconnaître ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre propre vie d'abord, dans la vie de l'Assemblée aussi, parce que nous sommes tous, comme on l'a dit tout à l'heure, solidaires devant le Seigneur, et c'est quelque chose que nous devons bien saisir. Ça nous gardera d'ailleurs de toute prétention. Et puis alors, ne pas oublier les promesses, toutes ces promesses qui sont en Christ et qui sont oui et amen.
Je lirai juste ce verset d'Ésaïe 62 qui confirme ce que l'on vient de dire. Ésaïe 62, fin du verset 6. Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel, ne gardez pas le silence, ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et qu'il en fasse un sujet de louange sur la terre. Ainsi, quand il y a des choses à nous, c'est à nous à les juger devant Dieu, mais c'est Dieu qui rétablit Jérusalem, qui peut rétablir l'Assemblée.
Il y a justement chez Esdras cette appréciation des choses. Il jouit de ce qui a été fait jusque-là. Dans le chapitre 5, nous avons cette expression. Au verset 11, nous bâtissons la maison qui fut bâtie anciennement il y a bien des années. C'est-à-dire, pas autre chose, pas quelque chose de nouveau qui corresponde au désir de l'homme, mais nous revenons à ce qui était de Dieu. Il y a eu destruction, nous revenons à ces choses-là, c'est cette maison-là, parce qu'il n'y en a jamais d'autre dans la pensée de Dieu. Et c'est cette maison-là. L'autel est reconstruit sur son emplacement et il y a cette maison. Alors, Esdras l'exprime ici, au milieu du verset 9, « Afin de nous redonner de la vie pour élever la maison de notre Dieu. » Et puis ensuite, comme la chose ne peut pas demeurer dans un ordre convenable sans qu'il y ait séparation et protection, alors il voit effectivement ce qui va venir au moment de Néhémie, ce que nous trouvons dans le livre suivant.
J'ai bien peur, j'ai peur. Peut-être qu'il y a quand même, il reste quand même dans nos esprits, peut-être à quelqu'un dans la salle, comprendre cette notion qui prédomine dans les deux passages qu'on a lus, celui ce matin et ce soir, celui... Pourquoi faut-il que quelqu'un qui n'a pas péché s'humilie d'un péché qui n'est pas le sien? C'est, bien sûr, on a parlé de solidarité, on a parlé de... il faut quand même, peut-être, quand même distinguer l'humiliation de quelqu'un qui a péché lui-même et l'humiliation qui est dans l'assemblée ou qui est dans quelque cœur à propos d'un état ou à propos d'un péché dont on s'est passé directement et soi-même rendu coupable. Il y a quand même une nuance à faire. Il y a un exemple que je voudrais citer, qu'on aurait pu citer d'ailleurs ce matin, qui est assez beau. C'est l'exemple d'Abigaïl dans 1 Samuel 25. Voilà une femme remarquable, tout point de vue. Elle est belle et intelligente. Et bien, elle a une attitude très, très, très pleine de sagesse et de déférence. Elle reconnaît le roi qui n'est pas reconnu de Nabal, Nabal qui est David, elle reconnaît le roi d'Israël et elle le dira au verset 24, elle tombe, se prosterne en terre, elle dit à ses pieds, à moi l'iniquité, mon Seigneur. Voilà, une très belle. Voilà, elle participe à la honte de son mari. Son mari, lui, est le dernier à se repentir, il n'en est pas question, il ne se repentira jamais. Alors que, heureusement, dans Esdras, enfin, en dernier lieu, les vrais coupables vont se repentir. Les premiers qui ont été les premiers dans le péché, c'est-à-dire les chefs du peuple, seront peut-être les derniers à se repentir. Mais enfin, tandis que là, cette femme, à moi l'iniquité, verset 24, verset 28, pardonne, je te prie, la transgression de ta servante. Voilà une confession extraordinaire, on pourrait dire injustifiée. Elle n'avait rien fait. Alors là, on comprend peut-être que la honte de la famille, bien sûr, la honte de son mari rejaillit sur elle. Mais on ne peut pas quand même assimiler ce mari et cette femme, c'est évident. Devant Dieu, Dieu sait très bien qu'elle n'a pas péché. Il y a une humiliation, mais ce n'est pas pareil. Je crois qu'il faut faire la nuance. Lorsque David, plus tard, a fait le péché du dénombrement, eh bien, lui... Il va dire, c'est moi qui ai péché, mais ces brebis qu'ont-elles faites? Et il revendique pour lui seul la culpabilité. Je dis ça peut-être pour me mettre à la place de celui qui a vraiment péché et qui peut reconnaître que lui, il a un travail, il y a un travail en lui qui doit se faire, qui est un peu différent, pas de la même nature quand même. Je crois qu'il faut faire la différence avec ceux qui, par solidarité, se sont humiliés. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dieu prenne en compte l'état du cœur. Et chaque fois qu'une âme s'est humiliée, Dieu a écouté. Par exemple, Abigaïl est remarquable. dans ce sens qu'Abigaïl a été élevée, elle est devenue la femme du futur roi d'Israël, et que Nabal, il est mort, il a perdu la vie. Dieu, c'est Dieu qui agit. Nous, notre responsabilité, elle est de nous humilier. Nous n'avons pas à nous poser des questions, des états d'âme. Ce n'est pas notre propos, notre problème. Dès que nous avons conscience qu'une chose n'est pas en accord avec la pensée de Dieu, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour l'état du peuple, que ce soit extérieur à nous-mêmes, notre position, c'est l'humiliation première. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester, nous laisser dans un état d'humiliation permanent. C'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu, il a voulu que nous ne soyons que joyeux. C'est son propos à lui. Si nous sommes obligés d'être désolés à cause de notre propre état ou l'état du peuple, c'est parce que le péché a introduit cela et que nous avons à prendre conscience de la chose pour la dénoncer devant Dieu. Et à ce moment-là, il agit. Mais il faut le laisser agir. C'est lui qui agit, c'est pas l'homme. Si nous voulons agir à la place de Dieu et dire, maintenant que je me suis humilié, voilà ce qu'il faut faire, puis voilà ce que je vais faire. Le jeu est toujours mauvais quand il s'agit des choses divines. Le jeu doit être mis de côté. Le moi n'a rien à faire avec ce qui est de Dieu, si ce n'est à être dans la poussière, à la mort.
Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir, dans le contexte d'Esdras, mais pas seulement dans le contexte d'Esdras, dans celui de Daniel aussi, c'est Dieu qui a l'initiative. Si on lit le début du livre d'Esdras, c'est clair. Si on se réfère aux expressions qui ont été rappelées ce matin dans Jérémie, c'est clair aussi. Alors, si nous sommes conscients que Dieu a l'initiative et qu'au terme, Dieu produira ce qu'il a promis, lorsque nous sentons que quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'il convient de faire? Eh bien, d'appeler ce que Dieu a promis. Et pour l'appeler, c'est l'humiliation, mais l'humiliation qui en même temps remplit le cœur de joie, inonde le cœur de paix. C'est la reconnaissance, la confession, l'attente du secours de Dieu, mais en même temps, comme le ressent Daniel, comme le trouve Esdras, une joie intérieure qui monte, parce que c'est le chemin de Dieu, et nécessairement, Dieu va répondre. Mais il faut vraiment jouir du fait que c'est Dieu qui a l'initiative. Sinon, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de réponse possible, il n'y a pas d'attente possible. Tout tombe, il n'y a plus de ressources, tout devient incertain. Si nous savons que Dieu a l'initiative et si nous connaissons ce qui est écrit à l'égard de ce qu'il a dit, alors dès que quelque chose ne va pas, nous voulons tout de suite le lui dire. Et puis nous attendons qu'il manifeste l'initiative qu'il a prise et ce qu'il a déjà préparé.
Au verset 13, on a aussi quelque chose à souligner. Esdras a parlé jusqu'alors de ce qui était arrivé. Après tout, ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises œuvres, à cause de notre grand péché. Toi, notre Dieu, tu nous as moins punis que ne méritaient nos iniquités. Et tu as donné une délivrance. Est-ce que nous retournerions à enfreindre tes commandements et à nous allier par mariage avec les peuples qui font ces abominations? Il y avait une possibilité, il y avait une capacité de pouvoir retourner à ces abominations. Et là, Esdras, finalement, doit dire nous. Esdras était un homme ayant la même passion que nous. C'est vrai de tous les hommes de Dieu. Est-ce que nous retournerions à faire ces abominations, n'est-ce pas? Ne serais-tu pas courroucé contre nous jusqu'à nous consumer, en sorte qu'il n'y aurait ni reste ni réchappé? Alors, voilà, il y a une réflexion là, une réflexion profonde, un travail de cœur. Nous voici devant toi dans notre culpabilité. Bon, il y a des hommes qui tombent, bien sûr. Nous en avons été sans doute chacun notre tour. Il y a ceux qui ne sont pas encore tombés. Eh bien, qu'ils se tiennent devant Dieu pour avoir le secours. Parce que, on a lu ce matin, il n'y a nul homme qui ne pêche. C'est Salomon qui le dit. Il en connaissait bien un rayon.
Il y a quelque chose de particulier qui est bien clair dans la parole de Dieu, c'est que nous avons tous la même nature. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et par conséquent, pour donner une petite réponse à une recherche qui a été exprimée plusieurs fois, s'il y a un péché direct d'un autre, autrement dit, il est plus directement concerné, il est coupable à un autre degré, eh bien, je me dis simplement que ma nature n'est pas différente. Et alors, je suis devant le même Dieu. C'est lui aujourd'hui. Je m'humilie pour que ce ne soit pas moi demain.
Alors, dans les premiers versets du chapitre qui suivent, nous sommes profondément reconnaissants en voyant ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu opère. Et c'est très encourageant si le Seigneur nous met à cœur de nous humilier devant lui. Quand on voit cette grande congrégation qui pleurait beaucoup, qui vient, qui se rassemble auprès d'Esdras, et puis cette confession, n'est-ce pas, qui est quand même remarquable. Il y en a un d'entre eux qui en quelque sorte est le héros des autres en disant, il prit la parole chez Kania, en disant à Esdras, nous avons été infidèles à notre Dieu, nous avons pris des femmes étrangères d'entre les peuples du pays. On reconnaît son péché. Et en même temps, et parce que Dieu avait opéré dans son cœur une repentance à salut, dont on n'a pas de honte, eh bien, il dit, maintenant, il y a espérance pour Israël à cet égard. Et ça, je trouve que c'est aussi, bien sûr, quelque chose de tout à fait remarquable, qu'ils disent, il y a espérance, non pas seulement pour nous, mais pour Israël. Réalisant, on pourrait dire, toute la misère, toute la tristesse, toute la ruine qu'ils ont attirée par leur désobéissance sur tout le peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur reconnaît. Alors, évidemment, comme disait Jacques il y a un instant, il y a des degrés. Et dans ce cas précis, on avait fait un très grand tort à ces pauvres femmes étrangères, n'est-ce pas, qui ne connaissaient pas ces choses. Et puis voilà, maintenant, de par obéissance à Dieu et à la loi, bien, elles vont être renvoyées. Et puis plusieurs avaient des enfants. Ceci nous rappelle d'ailleurs, au passage, que dans notre vie, et il faut que le Seigneur nous aide à cet égard et nous faire sentir toute l'amertume, la gravité, disons, du péché. Il y a des tels péchés qui ont des conséquences qui demeurent dans nos vies. Il y avait des choses. On allait bien obéir, mais par la grâce de Dieu, mais il y aura de la souffrance, n'est-ce pas ? Plus l'éloignement est grand, et plus il y a de la souffrance. Alors que le Seigneur nous donne évidemment d'être aussi attentif à ne pas jouer avec le péché, ce que notre cœur naturel nous pousserait bien sûr à faire. Et comme le disait notre frère il y a un instant, n'oublions surtout pas que ce qu'ici certains avaient commis, d'autres auraient été bien capables, et nous aurions tous été capables de le faire, disons. D'ailleurs, mais enfin, on est très encouragé de voir ce que Dieu a produit dans le cœur de même des coupables. De ceux qui étaient tombés dans ces fautes. Et ils réalisent en particulier, ça dépasse beaucoup notre égoïsme naturel, cela, que le mal qu'ils ont fait à Israël, bien maintenant, par la grâce de Dieu, bien, il y a espérance. Et que le peuple va pouvoir être restauré parce qu'ils vont abandonner leur mauvaise voie.
Il y a quelque chose d'important à souligner dans cette phrase de la fin du verset 2. Mais maintenant, il y a espérance pour Israël à cet égard. C'est que le comportement des uns n'est pas sans conséquence pour tout l'ensemble. Et Shekania l'a réalisé. Et alors, s'il dit, mais maintenant, il y a espérance pour Israël à cet égard. Il y a cette réalisation essentielle, ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, dit Shekania, a porté tort à tous. Mais maintenant que je viens avec d'autres m'humilier, reconnaître la chose, demander réparation à Dieu, alors il y a espérance pour tous. Et implicitement, il y a ceci. Si je suis responsable d'une chose, et si je ne viens pas devant Dieu pour reconnaître la chose et pour amener la réparation, eh bien, tout l'ensemble en subit les conséquences. Et il ne peut pas y avoir d'espérance pour l'ensemble du peuple de Dieu. C'est important cela. On agit personnellement, on pense, on l'entend quelquefois, qu'on est seul concerné, que Dieu agira à notre égard. Il le fait, bien entendu, il y a derrière une grâce et une miséricorde. Mais nous le lisons ici maintenant, et par conséquent nous sommes responsables. Dieu nous dit bien, attention, bien sûr j'opérerai à l'égard de l'un et à l'égard de l'autre dans mes voies, d'une manière juste, mais maintenant que vous lisez ceci, sachez bien que ce que fait l'un porte préjudice à tous. Et pour qu'il y ait réparation pour tous, eh bien, il faut que chacun vienne dire oui, voilà ma part. Et alors maintenant, il y a espérance pour tous. Est-ce que nous avons envie qu'il y ait espérance pour tous, qu'il y ait réparation pour tous?
À cause du péché d'Acan, il y avait défaite pour tout Israël. Et il n'y avait qu'un seul pécheur, et voilà.
Pour peut-être juste appuyer cette notion que si nous n'avons pas péché, nous sommes des pécheurs en puissance à cause de notre nature. Nous pouvons toujours que, par exemple, il est dit dans 1 Corinthiens 10, je pense, que celui qui croit être debout ou prenne garde qu'il ne tombe. Mais je voudrais lire surtout le psaume 94, versets 17 et 18. Si l'Éternel n'avait été mon aide, peu s'en serait fallu que mon âme eût été habitée dans le silence. J'ai dit, mon pied glisse, ta bonté, ô Éternel, m'a soutenu. Autrement dit, si nous avons marché à peu près convenablement le bout du chemin que nous avons eu à suivre, bien, rejetons toute la grâce à Dieu, et sachant bien que c'est bien, pas par notre force que nous avons été tenus debout, mais par celui qui est puissant pour nous tenir debout.
Nous aurions aussi insisté sur le fait qu'il y avait dans ce rassemblement, cette grande congrégation, des hommes, des femmes et des enfants. Nous aurions tendance aujourd'hui à penser qu'il doit y avoir des traitements différents. Et on l'entend souvent. Nous voyons dans le péché d'Acan que toute la famille subit le jugement du chef de famille. Tout son avoir, tout est englouti. Quand il s'agit de l'humiliation, nous les voyons rassemblés ici, tous ceux qui tremblent à la parole du Dieu d'Israël, et tous ceux qui tremblent à ses commandements, comme il l'est dit au verset 3 du chapitre 10, à savoir que nous pouvons là aussi avoir un sujet d'humiliation pour ce qui concerne les parents et grands-parents, que bien souvent les enfants sont beaucoup plus sensibles à ce qui est écrit dans le Saint-Livre que nous-mêmes, et qu'ils sont beaucoup plus attentifs à reconnaître quelle est la pensée et la voix de Dieu dans bien des choses. Et si Dieu nous accorde d'avoir des enfants et des petits-enfants, ne les dissocions pas de ce travail de cœur qui est nécessaire, qui est la réalité de la vie chrétienne en traversant le désert de ce monde, afin que quand ils seront grands, ils puissent aussi comprendre quelle est leur place et leur responsabilité là où Dieu les a placés.
Remarquons aussi qu'Esdras continue dans son humiliation, n'est-ce pas? C'est Esdras qui est au départ de ce fait d'être redressé, qu'Israël soit redressé. Mais voilà, les choses semblent faites. Mais Esdras se leva de devant la maison de Dieu et alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Il entra là. Il ne mangea point de pain, ne but point d'eau, car il menait deuil sur le péché de ceux qui avaient été transportés. Tant que tout n'est pas réglé, Eh bien, Esdras mène deuil. Voilà un homme qui ne se contentait pas de choses superficielles. Il fallait aller au fond des choses.
D'ailleurs, on voit que son autorité morale est reconnue, n'est-ce pas ? Elle est reconnue, ça c'est peut-être aussi un avertissement pour nous, dans notre siècle de démocratie. Esdras a été en effet le premier à... Par la grâce de Dieu, bien sûr, tout est l'effet de la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il a été le premier à s'humilier, alors qu'il semblait ne pas être en fait directement, comme on dit, concerné. Eh bien, ici, on lui dit, n'est-ce pas, lève-toi, car la chose repose sur toi, verset 3. Et il est dit, Esdras se leva. Bien sûr, il y a une attitude de cœur qui demeure la même jusqu'à ce que les choses soient entrées dans les faits. Mais c'est assez frappant et je pense, selon Dieu, que le peuple, après avoir fait cette confession, avoir, reconnu leur péché, s'adresse tout naturellement à celui qui avait du discernement et une communion avec Dieu qui le recommandait pour mener les choses à leur terme.
Il y a un petit mot, sois fort et agis. Dans le chapitre précédent, nous avons lu au verset 12, maintenant ne donnez pas vos filles à leurs fils, ne prenez pas leurs filles pour vos fils, ne cherchez pas leur paix ou leur bien à jamais, afin que vous soyez forts et que vous mangiez les biens du pays et que vous les laissiez en possession à vos fils à toujours. Soyez forts. Et on voit que la première chose pour être fort, c'est la séparation du mal pour Christ. C'est ce que nous trouvons dans ce verset 12. Ne cherchons pas la force en lisant 2 heures de plus par jour la parole de Dieu si dans nos cœurs nous ne sommes pas séparés. Cela ne servira à rien. Quand on a à la fin de les premiers épîtres aux Corinthiens au chapitre 16, on a quelques expressions dans le verset 13 qui nous amènent un peu à notre sujet. Le premier c'est, verset 13, veillez. Et c'est pas parce que j'ai décidé aujourd'hui, je vais veiller, que je vais être vigilant toute ma vie chrétienne. C'est un exercice de chaque jour, et on peut dire de chaque moment, veiller. Parce qu'il y a un adversaire qui veut justement me priver des biens du pays. Donc, veiller. Ensuite, tenez ferme. Il y a des richesses, justement, des possessions qui nous ont été données, dont nous avons pu nous emparer, et si nous ne tenons pas ferme dans la foi, nous allons les perdre. Elles vont nous être ravies. Et en particulier, et ferme dans la foi, c'est l'ensemble de la doctrine chrétienne, mais spécialement en rapport avec notre sujet, c'est justement d'être séparés dans nos cœurs pour Christ. Ensuite, nous lisons « Soyez hommes ». Et les Corinthiens, c'était des petits-enfants, charnels, ils se disputaient, ils faisaient des procès entre eux, ils étaient orgueilleux, un mélange. Alors soyez hommes, ça veut dire pas des petits-enfants, mais des hommes faits, spirituels. Mais peut-être en lisant un verset dans l'Ésaïe, on va voir que soyez hommes, c'est aussi quelque chose en rapport avec notre sujet, dans le chapitre 46... Et au verset 8, on ne lit pas l'ensemble, on pourrait lire à partir du verset 5, on voit qu'il y a là un mélange avec les adorer les autres dieux. Et alors au verset 8, souvenez-vous de cela, montrez-vous homme, rappelez-le à votre esprit, transgresseur, souvenez-vous des premières choses de jadis. Ça veut dire avoir le courage de confesser son péché. C'est ça, être un homme. Eh bien ça, il fallait être homme du temps d'Esdras. Hein, soyez forts,
Soyez homme, justement, quelqu'un qui a le courage de confesser ce péché. Et ça va coûter. Et ça va coûter dans les affections les plus profondes. Et peut-être, justement, des choses à couper dans notre vie, ce que j'ai à couper dans ma vie. Peut-être que je ne l'ai pas fait encore parce que ça me coûte trop. Et j'ai pas été un homme. Alors, le Seigneur va me donner la force si je me mets à ses pieds en étant conscient de ces déshonneur que j'ai eu dans ma vie pour lui. Alors, soyez homme, affermissez-vous. C'est-à-dire que je vais prendre personnellement des forces spirituelles. Je vais devenir un homme fort, solide. Et le fait que je vais devenir un homme vraiment, un adulte, avec des muscles en quelque sorte, eh bien, cela va aussi être la part de mes frères, de mes sœurs, et ensemble, nous allons être affermis. Affermissez-vous. Mais le risque de quelqu'un qui est vraiment fort, eh bien, c'est que quand il touche quelqu'un, ses gestes sont brutaux. Quand il est fort, ça peut être une brute. Alors, nous avons la suite, c'est que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. Pour que cette énergie spirituelle que Dieu nous donne, nous qui sommes des hommes forts, puisse aussi se manifester dans le concret avec cet amour de Christ. Alors nous allons pouvoir ainsi être de ceux qui sont forts. Soyez forts et de pouvoir agir. Mais nous lisons encore, on revient dans Esdras, mais mangez des biens du pays. Alors juste un mot, et très rapidement, c'est Deutéronome 8 qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à manger dans ce pays? C'est sûr qu'il y a ce qu'on voit dans Josué, ce vieux blé du pays, ce blé qui n'a pas été semé par moi ou par nous, mais qui était là quand on est arrivé. C'est Christ, c'est sûr. Mais si on lit dans Deutéronome 8 ce que le peuple allait trouver dans ce pays, eh bien, ce sont plein de choses qui nous parle de Christ. Non seulement il y a des vallées avec de l'eau, oui, de l'eau, qui nous parle certainement de cette vie de Dieu, l'Esprit de Dieu qui rend vivante la parole de Dieu. Mais on va trouver au verset 8 du chapitre 8 de Deutéronome, on va trouver un pays de froment et d'orge. C'est quoi? C'est Christ ressuscité, c'est Christ vivant. Un pays de vignes, la vigne, le vin, la joie, la communion réalisée avec Christ et les uns avec les autres. Des figuiers, aussi la figue qui nous parle encore ça serait long d'expliquer, mais peu importe, en tout cas, c'est des fruits du pays, et ce figuier, c'est certainement le fruit de la justice. Et puis, nous avons un peu plus loin les grenadiers. C'est ce qu'on entendait, les grenades qui entraient dans ce vêtement du sacrificateur, dans le lieu saint, qui nous parle des fruits de la sainteté. On trouverait plein de versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de tout cela. Et puis, des oliviers à huile, l'Esprit de Dieu, là, qui vient pour nous apporter ce qui est de Christ, pour glorifier Christ dans ma vie. Et puis, ça ne s'arrête pas là, il y a le miel. Ici, le miel, qui est la joie résultant de la communion réalisée. Et puis, il y a le pain, et puis, il ne manque de rien. Et, alors, la fin du verset 9, un pays dont les pierres sont du fer, et les montagnes duquel tu tailleras les reins. On n'a pas le temps de voir, mais dans Deutéronome, on voit qu'avec le fer et les reins, on fait quoi? Des verrous. Des verrous pour quoi faire? Pour fermer la porte. Et nous nous retrouvons là dans le sujet de la séparation. Eh bien, on trouve tout cela dans ce pays de la promesse qui nous est donné. Manger Christ, nous nourrir de Christ dans ce pays, Christ ressuscité. C'est Éphésiens, vivre cela. Et puis, encore quelque chose, cela nous parle à nos parents, pour que nous laissions ces biens en possession pour nos enfants. Pour revenir un petit peu à ce qui nous est donné tout à l'heure, et qui nous a été dit tout à l'heure, est-ce que nous confisquons pour nos enfants les biens du pays. De quoi leur parlons-nous? C'est vrai que dans notre attitude, nous devons aussi montrer ce qui correspond à notre état, c'est vrai. Mais d'un autre côté, de quoi parlons-nous à nos enfants? Et c'est là où tout à l'heure, j'avais une petite réticence dans ce que tu nous disais, Charlie. Et c'était vrai. Mais d'un autre côté, les enfants, ce sont ces vases découverts que l'on trouve justement dans le livre des Nombres. Et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Alors faisons quand même attention à ce que nous disons. Je ne veux pas dire du tout de ne pas prier pour l'Assemblée, les exercices de l'Assemblée, mais quand même, attention à ce que nous disons, et surtout dans nos familles, il y a des oreilles qui traînent et qui entendent des choses qui peuvent décourager. Alors que nous soyons quand même prudents dans ce que nous disons. C'est quand même l'épouse bien-aimée du Seigneur. Même si elle est pleine de tâches, nous la voyons et que nous avons notre responsabilité, alors que fait le Seigneur aujourd'hui? Eh bien, il l'aime, il la chérit, il la nourrit. Et puis, nous voyons qu'il la sanctifie lui-même par le lavage d'eau, par la parole. Et cette parole, justement aujourd'hui, a pénétré au fond de nous-mêmes. Et si nous nous sentons pressés dans nos cœurs, comme notre confiance va vers lui, vers le Seigneur qui l'aime tant son assemblée et qui s'en occupe, faisons-lui confiance et alors il mène lui tout à bonne fin.
Nous n'avons pas lu la fin du chapitre, mais on pourrait y voir en particulier que les choses ne devaient pas se faire de façon, on pourrait dire, désordonnée et impulsive, non? Et quand il s'agit des choses de Dieu, nous avons besoin que le Seigneur nous montre comment agir d'une manière sage et, on peut dire, patiente aussi, et avec cet amour dont on vient de nous parler. Je voudrais simplement aussi faire remarquer que dans les versets, par contre, que nous avons lus, ces Israélites, revenus à eux-mêmes, disent « Faisons alliance avec notre Dieu pour envoyer les femmes, etc. » On verrait la même chose dans le livre de Néhémie. Et nous savons que toutes ces alliances qui donnent une part à ce qui vient de l'homme sont, on peut dire, caduques au départ. Oui. À un moment donné, Dieu dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce cœur-là, quand le peuple s'engage légèrement, nous dirons, à faire tout ce que l'Éternel leur a dit. » Bon, eh bien, quelle est donc l'attitude que nous pouvons avoir demandé au Seigneur, chers frères et sœurs? Bien, ce que nous chantons si facilement dans un cantique, « N'ayant rien en nous, nous avons tout en toi. » Que vraiment, nous nous appuyons sur le Seigneur. Que nous lui disons, « Tu vois, tu nous as montré notre péché, nous le confessons devant toi, nous désirons l'abandonner, mais encore pour cela, nous avons besoin de ta grâce et nous avons besoin de ta force à toi. Nous n'avons rien en nous. Seigneur, aide-nous, secours-nous, et le Seigneur le fera. » Et c'est, je voudrais dire en passant, que ce sera aussi, je pense, quelque chose de tout à fait béni pour nos enfants. S'ils voient des parents, parce que qui nous connaît mieux que nos enfants, ceux qui vivent avec nous tous les jours? Et s'ils voient des parents qui, humblement, je dirais petitement, s'attendent au Seigneur et vraiment, avec foi, cherchent à lui plaire dans le détail de leur vie.